Je voudrais tout d'abord remercier Aconit et la FID pour leur invitation. Et je supprime un tout petit peu le début de mon intervention qui était de dire que le titre de mon intervention n'est pas correct sur Internet. Et que j'ai le regret de ne pas avoir été chercheur au CNRS à Grenoble, ce que tout le monde sait maintenant. S'interroger sur le devenir de la sauvegarde du patrimoine scientifique, technique, industriel, contemporain, conduit à se pencher sur les notions qu'un tel projet mobilise. Je reviendrai en premier temps sur la notion de patrimoine, puis je chercherai à déterminer la spécificité du PSTIC, et j'essaierai d'éclairer le débat sur son devenir. Au cours des 30 dernières années, la question du patrimoine a donné lieu à un grand nombre de débats, de rapports, de mesures, de politiques, de programmes et de controverses, en France comme à l'étranger. Les innombrables travaux sur lesquels une telle réflexion s'appuie constituent désormais un ensemble abondant, riche, hétérogène. Il renvoie à une tradition professionnelle, un champ scientifique, et peut-être même à la généralisation d'un regard, voire d'une prise de conscience patrimoniale plus collective. À la lumière de ces apports, il est possible de clarifier 10 questions clés que soulève le débat patrimonial. Pour Roland Recht, penser le patrimoine est une mise en scène et une mise en ordre. Pour Dominique Poulot, le succès contemporain du patrimoine vient de son pouvoir évocateur. Et selon lui, la promotion et la valorisation du patrimoine donne lieu à une véritable croisade au sein du monde occidental. De la mise en ordre à la croisade, l'éventail des possibles, tant sur le plan de la réflexion que de l'action, est immense. Dans son usage courant, la notion de patrimoine renvoie à la possession de biens et à leur transmission d'une génération à l'autre. François Chauet rappelle que ce beau et très ancien mot était traditionnellement lié aux structures d'une société stable. De même, dans un article à la fois pionnier et incontournable, Jean-Pierre Bablon et André Chastel indiquent que la notion de patrimoine couvre de façon nécessairement vague tous les biens, tous les trésors du passé. Ainsi, la protection du patrimoine se traduit prioritairement par des attitudes et des pratiques à l'égard de ces biens hérités du passé. À la fin du XIXe siècle, Alois Riegel considérait que les objets, les monuments et les lieux patrimoniaux avaient une valeur qui leur était propre, à savoir une valeur d'ancienneté. Cependant, précise Christophe Pomian, ces biens échappent à une utilité immédiate. Il leur est attaché une valeur actuelle. Aussi, selon Roland Recht, Riegel a peut-être défini, par anticipation, la religion du patrimoine qui s'étend en cette fin de XXe siècle et de début de XXIe. Plus récemment, le patrimoine a acquis d'autres valeurs. La valeur attribuée aux objets hérités du passé s'est étendue au témoignage du temps présent, le contemporain. Et avec cette extension, a inclus l'ordinaire dans son champ. De plus, en raison de ses multiples usages, la valeur économique du patrimoine, en particulier les œuvres d'art, ont toujours eu une valeur marchande, s'est considérablement accrue. Dans bien des cas, considéré comme un handicap, le patrimoine est devenu une ressource non négligeable, si ce n'est essentielle, du développement touristique local et national. Au-delà de son sens premier et de sa réalité matérielle, le patrimoine a acquis une signification beaucoup plus large. Il est désormais associé à l'histoire et à la mémoire. Pierre Nora écrit, je cite, « Le patrimoine est devenu l'un des maîtres mots de la conscience historique contemporaine, passant de l'acception presque notariale qui était encore la sienne à la fin des années 60 et 70, à une définition beaucoup plus contraignante et envahissante. Non plus le bien dont on hérite, mais le bien constitutif d'une conscience constitutive d'un groupe véritablement retournement. » Il poursuit. À ce titre, il est venu rejoindre dans la même constellation passionnelle les mots mémoire, identité, dont il est devenu presque synonyme, et qui ont eux aussi, dans le même temps et en très peu d'années, le même renversement de sens ravageur. Le patrimoine possède à la fois un caractère individuel et collectif, et ceci à plusieurs égards. Tout d'abord, au plan de la mémoire, comme nous invite à le voir David Loventhal, pour qui la mémoire du passé est à la fois individuelle et collective. La qualité duale du patrimoine renvoie aussi à la question du statut public et privé des biens patrimoniaux. Pour Michel Legnaud, le patrimoine, les objets, les monuments, les sites, relèvent avant tout de la sphère privée, fait que confirment les statistiques patrimoniales. Mais le patrimoine possède également une composante collective. La formule bien connue de Victor Hugo, dans son pamphlet contre les démolisseurs, illustre de manière exemplaire cette réalité double. Je cite « Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient à son propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'est donc dépasser son droit que de le détruire. » De plus, dans le cas français, l'histoire du patrimoine se confond avec une histoire administrative, ou au mieux socio-administrative, constate Dominique Poulot. Toutefois, dans de nombreux pays, les imbrications entre sphères privées et publiques sont beaucoup plus multiformes et moins univoques. La sauvegarde du patrimoine est une histoire. Depuis la Renaissance, elle est européenne, écrit François Choët, et elle est devenue, si l'on peut dire, mondiale. Mais il n'y a pas lieu de revenir ici sur cette longue histoire. Je retiendrai seulement que désormais, politique, structure et financement sont étroitement mêlés dans les discussions auxquelles le patrimoine donne lieu. Le patrimoine, qui concernait principalement les monuments historiques, puis les musées, les sites, les archives et les bibliothèques, s'est étendu pour inclure non seulement les trésors, mais également toutes les traces du passé et bon nombre du présent. François Choët voit dans cette évolution une triple extension typologique, chronologique et géographique, ainsi que la croissance exponentielle du public des biens patrimoniaux. Les champs du patrimoine s'étendent, se différencient, se spécialisent. Chaque domaine a ses institutions, ses défenseurs et ses experts. Du patrimoine artistique au patrimoine vert, ethnologique, scientifique, interdit, quotidien, immatériel, j'en passe. Le titre d'un ouvrage publié sous la direction de Henri-Pierre Jeudy, Patrimoine en folie, illustre bien cette évolution. Le patrimoine se décline quasiment à l'infini. L'élargissement de ces champs contribue à une reconsidération, voire une véritable redéfinition de la notion de patrimoine. Longtemps prise en compte dans sa matérialité, le patrimoine est de plus en plus appréhendé dans sa dimension symbolique. En raison de ce changement heuristique, radical, le patrimoine n'est plus héritage, il est produit et construit. David Loventhal écrit « L'héritage, c'est-à-dire le patrimoine, exagère et omet, invente avec sincérité, oublie franchement et prospère grâce à l'ignorance et à l'erreur. Objet et lieu en déshérence, coutumes et pratiques de populations marginalisées ou savoir-faire tombé en désuétude, toutes ces conséquences, phénomènes et manifestations d'un monde en permanence transformation donnent naissance à des plaidoyers en faveur de leur sauvegarde. La responsabilité publique qui s'était établie au cours des deux derniers siècles est largement mise en cause. Le patrimoine est désormais l'affaire de tous. Cette notion qui était, comme le souligne Pierre Nora, d'essence unanimiste et communielle, est devenue profondément conflictuelle. Dorénavant, selon Frédéric Edelman, le patrimoine n'est plus une question d'idéal, il devient une affaire de compromis. Aussi n'est-il pas étonnant que le patrimoine, sa sauvegarde et sa conservation, ainsi que sa mise en valeur, soient toujours en question, ainsi que le suggère le titre d'un ouvrage récent de François Choët, « Patrimoine en question avec un S, anthologie pour un combat ». Les différents apports de la réflexion générale sur le patrimoine conduisent à retenir la complexité de la notion, son pouvoir et ses ambiguïtés. Je voudrais maintenant examiner dans quelle mesure le patrimoine scientifique, technique, industriel, contemporain appartient à cette tradition plus large et de quelle manière elle s'inscrit dans le monde des sciences, des techniques et de l'industrie. À bien des égards, les éléments que je viens d'évoquer sont également pertinents pour le PSTIC, des cabinets curiosités où œuvres et objets se côtoyaient, aux premières collections systématiques dans lesquelles les œuvres d'art et les objets techniques ont été progressivement thématisés, ordonnés et séparés, à la création de musées de sciences et de techniques et aux projets plus récents de rénovation de ces musées historiques ou de mise en valeur de sites industriels, aux manifestations dans lesquelles objets et œuvres sont à nouveau réunis dans le cadre éphémère d'expositions, contre lesquels s'est élevé en particulier Francis Haskell, il est indiscutable que la sauvegarde de ce patrimoine particulier appartient à une tradition largement établie. Toutefois, les initiatives et réalisations dans ce domaine ont fréquemment occupé une place de second plan dans l'aventure patrimoniale, en nombre, en importance et en notoriété. à l'exception peut-être des grandes expositions. Les projets patrimoniaux ont été fréquemment réalisés au coup par coup, à la fois partiels et éclectiques. La sauvegarde de ce patrimoine semble rencontrer des difficultés à trouver dans la durée des modes d'intervention uniformisés et des formes de protection institutionnalisées. Récemment, une expérience particulière s'est néanmoins constituée et le PSTI, ancien et contemporain, gagne ses lettres de noblesse, comme en témoigne l'élaboration d'un corpus scientifique, l'adoption de pratiques plus professionnelles, la mise en valeur des objets et des sites, la référence à l'histoire des sciences, des techniques et de l'industrie, l'accent mis sur la mémoire et le savoir-faire, l'importance des références au territoire, l'appréciation de ces patrimoines, voire leur appropriation par les publics. Il n'en demeure pas moins que le PSTI se présente en quelque sorte à la marge, en porte-à-faux et à contre-courant de la logique sociale qui anime le secteur d'activité sur lequel il porte et qui, par conséquent, constitue son ancrage social ou son contexte, dont je voudrais rappeler très brièvement et trop schématiquement les traits majeurs. Dès leur origine, les sciences humaines ont cherché à mettre en lumière un phénomène prédominant de la complexité du social, qui permet de caractériser la société dans son ensemble et son évolution. C'est ainsi qu'au cours du XIXe siècle, pour les premiers sociologues ou penseurs sociaux, le phénomène marquant dans les sociétés occidentales était leur processus de modernisation. Le progrès scientifique et technique, l'industrialisation, l'urbanisation et la fin du monde rural, la démocratisation, les rapports de classe, les conflits sociaux, la montée en puissance des États, de l'administration et des grandes organisations. La grande transformation, selon la formulation de Karl Polanyi, nous est restituée dans les travaux de Weber, de Tocqueville et de Marx. De même, après la Seconde Guerre mondiale, les transformations liées à l'évolution scientifique, technique et industrielle prédominent dans la réflexion sur le social, qu'il s'agisse des contributions de Raymond Aron sur les sociétés industrielles, 20 ans plus tard de celle de Daniel Bell sur les sociétés post-industrielles, ou d'innombrables recherches sur la société de l'information, des réseaux, du savoir, etc. Plus récemment encore, les conséquences d'une économie mondiale sont au premier plan des questionnements sur l'émergence d'une nouvelle forme de société, le village global, tel que l'avait imaginé Marshall McLuhan dans les années 60. En outre, la prédominance du monde économique a entraîné une diffusion de ses valeurs au sein du corps social. C'est ainsi que le progrès technique, l'investissement dans la recherche, la valorisation de l'innovation, la rationalisation des modes d'organisation, la rentabilité et la professionnalisation sont autant de principes, de règles et de pratiques qui ont envahi le social dans son ensemble. Aussi, lorsqu'il s'agit de PSTI, ces deux logiques, l'une inhérente au monde technico-économique, pour reprendre la formule synthétique de Daniel Bell, et l'autre propre à la culture, se croisent. Dans le devenir de la sauvegarde de ce patrimoine, ces deux registres sont-ils complémentaires, contradictoires ou sources de conflits, acquièrent-ils une certaine autonomie? Plusieurs scénarios viennent à l'esprit et ce sera ma conclusion. Dans une représentation fonctionnelle ou fonctionnaliste du social, vision qui n'est plus très populaire actuellement, il est possible de concevoir une complémentarité quasi mécanique entre le segment de la société qui non seulement produit en masse, mais jette en masse, et un autre segment qui collecte, conserve et met en valeur. Dans une représentation plus fragmentée, des domaines séparés poursuivent des logiques distinctes et leurs points d'intersection se traduisent par des contradictions souvent insolubles, en particulier en ce qui concerne l'économique et le culturel. Telle est pour le moins la thèse très convaincante de Daniel Bell dans les contradictions culturelles du capitalisme. Une vision postmoderne d'une société non seulement fragmentée mais éclatée, dans laquelle le concept même de société tend à disparaître, la rhétorique de la perte du lien social, la force du thème de l'exclusion semble s'imposer, faisant écho aux inquiétudes des premiers sociologues sur l'anomie des sociétés modernes chez Émile Durkheim et le désenchantement du monde pour Max Weber. La sauvegarde du patrimoine correspondrait alors à une réaction nostalgique suscitée par la crise de la culture et la désorganisation de l'ordre économique prévalant antérieurement. Cependant, l'affaiblissement des conceptions globalisantes laisse la place à une représentation plus concrète du social qui conduit à mettre l'accent sur les actions individuelles et leur agrégation collective, les projets et les programmes, les organisations, les réseaux et les niches, Dans une telle approche plus pragmatique, de nouvelles communautés appartenant à des univers multiples se constituent autour d'intérêts partagés. Or, c'est peut-être dans le cadre de telles actions et interactions, à la fois plus ciblées et plus localisées, que se construit la sauvegarde du patrimoine scientifique, technique et industriel contemporain. Il s'agit alors effectivement moins d'un idéal que d'un compromis, comme le suggérait Frédéric Edelman. Mais ces visions partagées, ces actions concrètes, ouvrent des possibilités que les intérêts globalement aussi divergents que la sauvegarde du patrimoine et le développement des sciences, des techniques et de l'industrie ne laissaient a priori présumer. La prise en compte de la spécificité du domaine des sciences, des techniques et de l'industrie par les uns et la prise de conscience par les autres de l'apport de la connaissance du passé, lointain et récent, pour leur projection dans l'avenir, est sans doute le mode opératoire d'une telle voie. Je vous remercie.